violadas, violadas dentro de todas las casas, mujeres, edomundo y lladas. Ergámonos, mujeres, rachemos las barreras, en pe, en pe, en pe, en pe, en pe, en pe. Rachemos as barreiras en pe, en pe, en pe, en pe, en pe, en pe. Reconocémonos todas mujeres, no sentir donos allá, oprimidas as mujeres.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je vais commencer par vous parler du rapport du HCE sur le sexisme qui vient de sortir. Alors, donc c'est un nouveau rapport qui montre que le sexisme fait davantage de victimes. Médias et gouvernants s'appliquent à l'ignorer, à regarder ailleurs et à mettre en accusation les féministes. Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a une responsabilité des féministes ? Pourquoi ce que vous dites n'impacte pas ? La réponse est dans la question posée par Léa Salamé ce lundi 23 janvier sur France Inter, alors que le Haut Conseil à l'égalité, le HCE, a réservé l'exclusivité de la présentation de son cinquième rapport sur l'état alarmant du sexisme en France à la radio de service public. Comment le discours des féministes peut-il impacter si les médias dénigrent les messagères ? Anne-Cécile Meilfer, présidente de la Fondation des femmes, et Sylvie-Pierre Brossolette, présidente du HCE, font observer que les associations féministes alertent, produisent des chiffres, des analyses, des recommandations, protègent les victimes du sexisme, interpellent les gouvernements. Mais la journaliste Léa Salamé préfère faire diversion en s'attaquant à la cible préférée des antiféministes à l'aide d'une question d'un certain Sébastien. Avec des gens comme Sandrine Rousseau qui caricaturent les relations hommes-femmes, il ne faut pas s'étonner que le sexisme ait de beaux jours devant lui. Et précise avec gourmandise Léa Salamé, il y a plein de questions comme celle-là. Bingo. Rendre les féministes coupables du sexisme est le sport favori des antiféministes, qui dominent le discours médiatique de leur inversion de culpabilité. Que ne demandent-elles ? Pourquoi les responsables politiques ne prennent pas en compte tous ces rapports ? Pourquoi le Grenelle des violences conjugales a accouché d'une souris ? Pourquoi l'éducation nationale ne fait pas un travail d'éducation à l'égalité ? Pourquoi la police classe sans suite tant d'affaires de violence ? Pourquoi le nombre de féminicides ne baisse pas ? Pourquoi la situation s'est détériorée alors que dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre la violence sexiste étaient soi-disant les grandes causes nationales ? Le Standard de France Inter avait certainement bien des questions de ce type de la part de ses auditeurs et auditrices. Alors ce rapport, eh bien, on ne sait pas si ça servira à quoi, à caler les armoires de l'Élysée peut-être. Et les responsables politiques, que font-ils ? Donc les journalistes comme Nouvelle News par exemple, qui ont demandé au HCE de pouvoir assister à la remise du rapport au président de la République, eh bien n'ont pas été invités. La cérémonie n'était pas ouverte à la presse, comme si le sujet n'était pas assez important pour que les journaux informent les citoyennes et citoyens, comme si ce nouveau rapport était encore destiné à caler les armoires de l'Élysée. Un rapport de plus pour dénoncer le sexisme, l'expliquer, faire des recommandations. Beaucoup d'énergie pour continuer de semer les graines de la lutte contre le sexisme et les violences machistes, en espérant que tout ne sera pas balayé par de trop puissants vents d'ignorance. Alors donc ce rapport, bien moi je l'ai téléchargé quand même, hein, vous pouvez, je mettrai en lien du podcast si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce cinquième rapport ? Eh bien, il dit notamment que la situation est alarmante, surtout chez les jeunes générations, surtout chez les hommes, en fait, de 18-24 ans. Le sexisme progresse et certaines de ses manifestations les plus violentes s'aggravent avec des jeunes hommes pétris de réflexes masculinistes. Le HCE met en cause l'industrie du porno, donc l'industrie du viol tarifé, filmé, et l'absence de régulation par les pouvoirs publics. La faiblesse, voire l'inexistence de l'éducation à l'égalité, n'arrange rien. Le sexisme est solidement ancré dans les têtes. Le baromètre réalisé par l'Institut Via Voice auprès de 25 personnes représentatives de la société française montre que presque tout le monde, pourtant, reconnaît le sexisme. 93% des Françaises et Français estiment effectivement que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une des sphères de la société. Mais, parmi les hommes de 25 à 34 ans, près d'un quart estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Et tout âge confondu, 40% trouvent normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. En ce qui concerne les femmes, 80% des femmes estiment être moins bien traitées que les hommes en raison de leur sexe et 37% disent avoir déjà subi des rapports sexuels non consentis. C'est bien, bien fort comme pourcentage. Et d'ailleurs, voilà, ça me fait penser aussi au consentement. J'ai un article, une interview de Catherine Lemagueres, je ne sais pas si j'aurai le temps dans cette émission, que j'ai lue. Sur le consentement, et qu'en est-il dans le droit, justice et viol ? Donc peut-être que je vous en parlerai dans cette même émission. Alors je continue avec ce rapport du HCE. 15% des femmes interrogées ont déjà subi des coups portés par leur partenaire ou ex-partenaire. Et le taux grimpe à 20% pour les 50-64 ans, soit une femme sur 5. Donc la parole s'est libérée depuis l'émergence de MeToo en 2017, c'est vrai. Les enregistrements pour violences conjugales par les forces de l'ordre ont doublé depuis 2016. Mais le nombre de féminicides conjugaux n'a pas baissé. Il y en a eu au contraire 20% de plus en 2021 par rapport à l'année précédente 2020. Les inégalités professionnelles et les stéréotypes dans les médias perdurent. Le HCE donne une liste de mesures à prendre d'urgence, mesures inlassablement répétées, avec un accent particulier sur un appel à la régulation de l'industrie du, comme on dit, l'industrie du sexe, mais non, c'est plutôt, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est l'industrie du viol, tarifé filmé, donc est le porno, pour arrêter de faire des dégâts dans les têtes des plus jeunes. Le rapport du HCE répète beaucoup de choses que les associations féministes, qui pour beaucoup sont membres de cette institution, ont déjà dit, des choses que les précédents rapports disaient déjà. La persistance du sexisme n'est pas imputable aux féministes, mais à celles et ceux qui ne veulent pas les écouter. Le HCE a sorti une vidéo qui s'intitule « Le sexisme ». On ne sait pas toujours quand ça commence, mais on sait comment ça se termine. Donc cette vidéo est pas mal faite, effectivement, je l'ai regardée, donc, qui illustre le continuum des violences, du sexisme ordinaire au féminicide. Donc vous la trouvez sur le site on sait comment ça se termine.fr. Alors du coup, quelles sont les recommandations du HCR ? Donc en bref, donc il y en a 10 en résumé. Je vous fais un petit résumé. Donc évidemment, augmenter les moyens financiers et humains de la justice. Voilà, impunité de la justice très patriarcale. Donc il faudrait déjà avoir plus d'argent et plus de formation. Donc pour former en plus grand nombre les magistrates et les magistrats au sein des juridictions chargées de traiter les violences intrafamiliales, à l'instar de l'investissement espagnol. Donc avoir par exemple des tribunaux spécialisés comme en Espagne. Ensuite, numéro 2, instaurer une obligation de résultat pour l'application de la loi sur l'éducation à la sexualité et à la vie affective dans un délai de 3 ans et prévoir une sanction financière en cas de non-respect de cette obligation dans ce délai. Donc voilà, cette éducation à la sexualité, rien. Moi, je vois rien de fait donc dans les n'est pas du tout appliquée dans les écoles. Numéro 3, réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes, représentations dégradantes, traitements inégaux ou violents des femmes, en particulier les contenus pornographiques en ligne. Numéro 4, rendre obligatoires les formations contre le sexisme par les employeurs. En 5, généraliser l'éga-conditionnalité qui conditionne l'argent public à une contrepartie en termes d'égalité et la budgétisation sensible au genre. En 6, créer une haute autorité indépendante pour lutter contre les violences sexistes et machistes en politique. Numéro 7, conditionner les aides publiques à la presse écrite à des engagements en matière d'égalité. En 8, rendre obligatoire un système d'évaluation et une publication annuelle sur la part de représentation des femmes dans les manuels scolaires, informant, voire conditionnant leur mise sur le marché sur le modèle belge. Donc il semble que les Belges soient en avance par rapport à ça en particulier. Numéro 9, interdire la publicité pour les jouets genrés sur le modèle espagnol. Donc oui, c'est vrai que j'ai entendu ça, que en Espagne, ils ont beaucoup agi sur ça, et c'est vrai que c'est très important. Donc de lutter contre, dès le plus jeune âge, voilà, ici c'est, vous avez arrêté le bleu, le rose, la princesse, le guerrier, voilà, de stéréotyper les rôles sociaux avec les jouets dès le plus jeune âge, stop. Numéro 10, institutionnaliser la journée nationale de lutte contre le sexisme. Bon, pourquoi pas encore une autre, le 25 janvier. Oui, je crois que ça a été retenu par notre président. Mais bon. Ok. Alors, du coup, je vais enchaîner des tas de choses à raconter, évidemment, entre les actualités et puis des textes. Donc, j'essaye de relater des textes un peu d'analyse, pour comprendre un peu comment tout ça marche. Mais voilà, donc justement, dans la dernière fois, je vous ai lu un super texte qui s'appelait « Féminité et misogynie » d'une femme qui se faisait appeler La Franchie et dont on ne retrouve plus son site. Et je m'inquiète de savoir ce qu'elle est devenue. Bon, en tout cas, je vous ai lu ce texte que j'avais heureusement... récupéré avant la disparition du site, et qui était formidable, donc sur tous ces stéréotypes de genre que l'on combat, notamment sur la féminité. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à une réaction donc de Francine Sporanda, qui en parle souvent en fait de ces stéréotypes. Voilà, et donc par exemple, à un moment, elle parle de la colère. Voilà, c'est quelque chose qui me parle aussi. Donc, dans un texte qui s'appelle, elle a écrit beaucoup, elle a un site, Francine Panda a un site qui s'appelle Révolution féministe. Je vous engage à aller voir, c'est très très complet. Et donc, elle avait écrit un texte qui s'appelait Le patriarcat, une religion d'inversion, et où elle parle de la colère qui est interdite aux femmes. Donc voilà ce qu'elle dit. Les femmes seraient incapables de contrôler leurs émotions. On les dit hystériques, alors que les hommes, eux, sont sujets en réalité à des accès de colère, de jalousie, qui peuvent aller jusqu'à la violence et au meurtre. Les hommes reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne les contrôlent pas, ce manque de contrôle étant censé excuser ces violences. En fait, il y a là un double standard. Le fait d'être dominé par ces émotions est réprouvé chez les femmes. La colère en particulier leur est interdite. Par contre, quand les hommes se laissent aller à cette émotion virile, c'est vu comme une affirmation de soi valorisante. Et cela signale leur appartenance à la catégorie dominante. Eux ont le droit de déverser leur courroux sur les dominés, de rager, de crier, de se plaindre. Et dans ce cas, les femmes doivent prêter une oreille compatissante. Mais l'inverse n'est pas vrai. Toute tentative de la part des femmes d'extérioriser leurs émotions en direction des hommes sera perçue comme importune ou hystérique. De même que le « elles parlent trop » vise à les réduire au silence. Le « elles sont hystériques » leur pose une interdiction d'exprimer leur colère, de protester ou de se plaindre. La colère est une émotion de dominant. Elle exige, elle juge, elle punit. Une femme n'a donc pas le droit de se comporter comme un homme, n'a pas le droit d'exprimer sa colère, surtout envers un homme. Alors j'ai trouvé une citation aussi par rapport à ce thème de la colère, d'une autre personne qui s'appelle une autre femme, Alan J. Johnson, qui dit « Pour les femmes, être en colère est socialement inacceptable, même si cette colère est due à la violence, la discrimination, la misogynie et à toute autre forme d'oppression. La colère est inacceptable parce que les femmes en colère sont des femmes qui sont en contact avec leur passion et leur pouvoir, particulièrement avec les hommes, ce qui menace tout l'ordre patriarcal. » C'est inacceptable parce que ça force les hommes à confronter la réalité du privilège masculin et de l'oppression des femmes et du rôle qu'ils y jouent, même en tant que bénéficiaires passifs. La colère des femmes met au défi les hommes de reconnaître leur tentative de banaliser l'oppression avec des « c'était une blague ». Et la colère des femmes est inacceptable pour les hommes qui attendent des femmes qu'elles prennent soin d'eux, renforcent leur besoin de sentir qu'ils gardent le contrôle et les encouragent dans leur compétition avec les autres hommes. Lorsque les femmes sont moins gracieuses et de bonne humeur face à leur oppression, les hommes se sentent mal à l'aise, gênés, perdus et donc vulnérables. Voilà. Alors, il y a aussi un thème dont parle Francine Sporanda, qui est la misandrie, et moi ça m'a semblé intéressant. Voilà, c'est une discussion qu'elle a eue avec d'autres féministes, parce que souvent, dès qu'on lutte, eh bien, on a tendance à se faire traiter de misandre. Il y a beaucoup de réactions, donc souvent, qui disent ah, bah ça, stop, enfin, comment dire, vous allez trop loin et vous devenez misandre, etc. Donc voilà, à propos de la misandrie, la réflexion de Francine, je vais vous la lire parce que moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc elle a eu donc une discussion en fait sur les réseaux sociaux avec une femme qui disait ça, qui disait n'exagérez pas les féministes, vous risquez de devenir misandre. Du coup, Francine Sporanda discute avec cette femme et lui dit, je lui fais remarquer une évidence, elle lui dit, les femmes misandres ont souvent tout simplement peur des hommes et elles ont de bonnes raisons d'avoir peur d'eux. Voilà, c'est bien de le rappeler, effectivement, je suis d'accord avec ça. Et ce à quoi cette femme qui dit que ben, souvent les féministes exagèrent, elle répond « La peur est légitime, mais tout le monde a peur. Ça ne doit jamais rester un état permanent, ni être revendiqué comme tel. Généraliser ne sera jamais bon. Le but, c'est d'en sortir, pas de passer son temps à dénigrer tout ce qui porte pénis. » Alors, par rapport à cette phrase, voilà ce que répond Francine Sporanda, qui est très radicale. Et qui répond à ça, eh bien, voilà le genre de féministe que je vais bloquer, que je bloque systématiquement. Le genre qui dénonce les excès du féminisme et le féminisme victimaire et qui fustige certaines féministes parce qu'elles seraient horreur, misandre. Refusant de voir que cette misandrie n'a habituellement que la conséquence normale et parfaitement légitime des violences que ces féministes ont subies de la part des hommes. Non. Tout le monde n'a pas peur également. La peur d'une femme victime de viol est spécifiquement féminine. Un homme ne connaîtra jamais cette peur. C'est un des plus énormes privilèges masculins que de pouvoir se déplacer partout dans l'espace public sans connaître cette peur. Je me refuse absolument à condamner des femmes qui sont devenues misandres à force d'avoir été victimisées de façon répétée par des hommes. Je me refuse à condamner la misandrie de survivantes de la prostitution qui ont été vendues à un bordel par leur père à 11 ans et ensuite violées plusieurs fois par nuit par des « entre guillemets clients » pédocriminels bien sous tout rapport. C'est vrai que le mot « client » est mis entre guillemets, je suis d'accord avec ça parce qu'il ne faudrait pas appeler « clients », il faudrait les appeler des prostitueurs. Je me refuse absolument à condamner la misandrie de ces femmes battues par tous les hommes avec qui elles ont été en couple. Je me refuse à condamner la misandrie résultant de violences masculines répétées. Je m'y refuse d'autant plus que la misandrie est pour ces femmes le seul moyen de se protéger contre de nouvelles revictimisations. Leur refuser leur droit de se méfier des hommes, ça revient objectivement à les livrer sur un plateau à de nouvelles agressions masculines. Tout individu a le droit de ne pas aimer et de fuir ceux qui veulent le détruire. Mais ce droit est refusé aux femmes, comme si le but que doit obligatoirement viser le travail de reconstruction de soi après une agression, c'était de redevenir une bonne petite soldate du patriarcat, de ramener impérativement les victimes à la norme du couple, de l'hétérosexualité et du lien fondamental et intouchable avec les hommes. Et comme si le fait pour les victimes de violences sexuelles de dénigrer, entre guillemets, tout ce qui porte pénis était le crime suprême, infiniment plus grave que les violences masculines elles-mêmes. Ce féminisme qui place la protection de l'image des hommes avant l'écoute des femmes victimes d'agressions est pire que pas de féminisme du tout. Voilà, donc je vous apporte cette réflexion donc, de Francine Sporanda. Du coup, je vais enchaîner, je vais faire une petite pause musicale, voilà. Alors, 2 secondes parce que je suis désolée, mais je suis à la technique en même temps, voilà. l'émission sera féministe sur Radio Galère. Alors, puisque je viens de vous parler du rapport du HCE, qui parle aussi de la lutte contre la porno-prostitution et la pornographie, l'influence très néfaste de la pornographie sur le sexisme. C'est un outil terrible, le principal outil du patriarcat. Je suis d'accord sur ça avec Andrea Dworkin, qui était une très grande militante contre la porno-prostitution. Du coup, par rapport à cette lutte, je vais vous redonner sa définition donc de Andrea Dworkin, ce qu'elle dit de la pornographie. La pornographie est l'asservissement sexuel des femmes par des images ou des mots qui les représentent comme des objets, prenant plaisir à être humiliées, battues, violées, dégradées, avilies, torturées, réduites à des parties de leur corps, placées dans des postures serviles de soumission ou d'exhibition. Alors dans son, j'ai retenu aussi dans son discours par rapport à la tuerie de Montréal que j'avais lu dans un podcast récemment. Elle parle aussi de la pornographie et elle dit « Le contrôle masculin des femmes par le biais du droit et de l'Église s'est considérablement détérioré. Voilà le genre de choses qu'on a le droit de dire tant que l'on n'ajoute pas « c'est nous qui avons fait cela, les féministes ». Mais nous l'avons fait. La raison pour laquelle nous ne sommes pas des biens dans le mariage, c'est que nous avons changé ces maudites lois. Nous avons créé une révolte des femmes dans le mariage. Il y a maintenant des femmes